ברשות בעלי הבית, ברשותכם, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet qui en réalité touche à la Torah du roi Mashiach. Le roi Mashiach qui clôture l'histoire humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui viendra, apparaîtra avec une façon bien spéciale d'enseigner la Torah. Ce sera toujours la même Torah, à ne pas confondre avec le livre de la Torah, car aujourd'hui quand on dit Torah à quelqu'un, il a l'impression que je parle d'un livre, alors que la Torah n'est pas un livre, c'est la vie, c'est la structure de la vie. Et si on considère la Torah comme un livre, eh bien en réalité on est tombé dans la religion. La religion est la mort du peuple d'Israël. On n'a pas le droit de tomber dans cette erreur. La Torah est la structure de vie qui anime toute chose. Je veux dire par là que tous les êtres dans ce monde, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, chacun a sa Torah. Chacun a reçu sa Torah, c'est-à-dire la structure qui gère sa vie. La Torah du papillon, c'est de faire ce que le papillon sait faire. La Torah du chat, c'est de se comporter comme un chat. La Torah de la fourmi est inscrite donc dans sa structure vitale.
La programmation.
Programmé. De la même manière, la Torah s'appelle en hébreu Es Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire Es Chaim? Pas un arbre de vie comme les Français aiment bien à traduire, mais Es, c'est le masculin de Essa. Essa, vous savez, c'est un conseil. Donc Es Chaim, c'est tout simplement un conseil masculin de vie. Donc lorsque la Torah apparaît à l'homme, et si on veut vous piéger, on vous pose la question très simple, sur quelle matière a été écrite la Torah? Alors vous voyez des réponses sur du parchemin, sur de la pierre. Pourquoi? Vous êtes tombé encore une fois dans le piège. La Torah n'est pas écrite ni sur du parchemin, ni sur de la pierre. Elle est écrite à l'intérieur de la structure de votre vie. Et c'est pour ça que tous les matins, l'une des bénédictions que nous récitons, c'est-à-dire que la vie a été inscrite dans ma structure, dans ma conscience, dans mon être. Donc la Torah, qui va parler en fait de cette structure de la vie, va mentionner le nom de la vie. Celui, c'est cette mention-là, celle que vous appelez Dieu, le tétragramme. Quand vous regardez le nom de Dieu, le Yud, le Hé, le Vav et le Hé, vous avez l'impression qu'il s'agit du nom de Dieu, comme si que Dieu avait besoin de nom. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu? Eh bien, le nom d'Hachem, le tétragramme, c'est pas son nom, c'est tout simplement le nom de l'être. En hébreu, je vous l'ai déjà dit et je le répète, le mot Havaya, le Shem Havaya, le nom de l'être, Havaya, c'est l'existence. En hébreu moderne, dans n'importe quel hébreu, l'existence se dit Havaya. Donc quand je parle du nom de Dieu, je parle en réalité du nom de la vie. Et donc, étudier les quatre lettres du nom d'Hachem, c'est tout simplement étudier la vie. Or, étant donné que chaque structure dans ce monde a reçu la Torah qui correspond à sa hauteur, eh bien, nous devons connaître, comme la fourmi doit connaître sa Torah, comme les abeilles ont une Torah, il n'y a pas d'école pour abeilles, pour apprendre à faire des ruches. Elles ont une Torah naturelle dans leur propre structure. Israël a aussi une Torah bien spécifique, qui est inscrit, qui est gravé dans leur structure intérieure. Le problème, c'est que, à la différence d'un animal où sa structure est active dès sa naissance, c'est-à-dire qu'un chat est chat dès le premier jour de sa vie, nous, pour devenir ce que nous devons être, ça nous prend des dizaines, des centaines d'années, et parfois plusieurs réincarnations. Parce qu'on est loin de notre propre structure, et si on ne passe pas notre temps à étudier, et vous comprenez maintenant qu'il s'agit d'étudier soi-même, de s'auto-étudier, car j'étudie ma structure intérieure, eh bien, je peux, chas de shalom, rater ma vie. Rater en hébreu, ça s'appelle chataim, ce que vous traduisez en français comme les fautes. Donc vous fautez à votre propre vie, à votre propre structure, en ne la connaissant pas, tout simplement, et en passant à côté de votre vie. Ce qui n'arrivera jamais à un oiseau. L'oiseau va vivre sa vie, et donc il est dans la justesse de son être. Et donc un oiseau, par conséquent, a toujours raison. Donc il est sodek, donc il est sadique. Donc chaque oiseau est sadique parce qu'il est fidèle à sa structure intérieure telle qu'elle a été voulue. Nous les hommes, c'est différent. Si on n'étudie pas, si on ne reprogramme pas notre structure intérieure, on peut passer à côté de sa vie. Moralité, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie, qui font beaucoup de choses dans ce monde, mais l'essentiel ne l'ont pas encore touché. Ça fait très peur. Et nous avons une prière chaque jour que nous récitons. Yahirasson, c'est lo niga larik. Je demande à Akadosh Baruch Hu, fasse que je n'ai pas travaillé pour rien dans ce monde. Je me suis très fatigué pendant des années, des dizaines d'années, pour rien. C'est-à-dire, je suis passé à côté de moi-même. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Il n'y a pas plus grande faute que de vivre moins que ce que t'aurais dû vivre. Cette structure intérieure, il faut l'étudier, mais la Torah messianique va nous donner un élément supérieur. Jusqu'à maintenant, nous croyons que la Torah, c'était en fait un livre de loi. Ça nous a maintenu pendant toute la période de notre exil, de nos exils, mais la Torah messianique vient ouvrir quelque chose de spécial. Je vais vous citer un passage du Zohar. Le Zohar, donc, le livre clé, qui va être le livre que le Mashiach portera avec lui. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire déjà quelle sera la nature de la Torah messianique. C'est une Torah de la splendeur. Pourquoi ? Parce que c'est une Torah qui ne parlera pas du interdit et autorisé, kasher et pasoul, tamé impur et pur. Elle va parler en fait d'une structure beaucoup plus supérieure qui va être la Torah du commun et pas la Torah des différents. J'explique. Nous sommes tous, autant que nous sommes, comme des lettres sur un parchemin. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand nous portons le Sefer Torah, chacun de nous doit regarder la lettre de son prénom. Par exemple, je m'appelle Yoel, la lettre qui correspond à mon prénom, c'est le Yud. Donc quand on lève le Sefer Torah, même si je suis à distance, je dois penser voir la petite lettre Yud qui commence mon prénom. Et c'est là-bas où je suis en fait relié à l'infini par ces lettres. Ces lettres n'ont pas le droit de se toucher. Et si nous sommes ces lettres, ça veut dire que chacun de nous doit avoir sa liberté. Je ne peux pas être confondu avec quelqu'un d'autre. Auquel cas, le Sefer Torah est pasoul. Je ne peux plus lire dans ce Sefer Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de facto ? Ça veut dire que si je n'ai pas une structure où j'ai une liberté totale dans mon être, et que je suis mélangé à quelqu'un d'autre, eh bien, je suis en fait embrouillé dans un système où je n'existe plus par ma propre identité. Les sages disent que si vous êtes des lettres, vous allez être séparés. Mais on va vous lire ensemble. C'est-à-dire que quand je lis un texte, je lis un ensemble de lettres. Je ne lis pas lettre par lettre. Comme quelqu'un qui ne sait pas lire. Quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu. Par exemple, il est écrit le mot Zohar. Il ne va pas savoir le lire. Il va faire il lit lettre par lettre. Ça ne veut rien dire ce qu'il est en train de dire. Pourquoi ? Il n'a pas la possibilité de faire l'ensemble des lettres. Je veux dire par là que bien que nous soyons tous différents les uns des autres, puisque nous sommes des lettres, nous devons savoir en fait lire des phrases. Lire des ensembles pour faire des mots, les mots vont faire des phrases et les phrases vont donner un sens à notre vie. Ça, c'est l'étude de la Torah. Les mots dans la Torah s'appellent pas milim, mais tevot, les mots, pas les lettres. Et les lettres s'appellent otiyot. Que veulent dire ces deux termes? Otiyot veut dire venir. Ata, en araméen. Dans la Gemara, si on veut dire quel Rav est arrivé, on dit Ata Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est arrivé. Je veux dire par là que les lettres en hébreu, ce sont des véhicules, des transporteurs. Elles font venir quelque chose. Ata. Et les mots s'appellent Tevot. Comme Rashi Tevot. Tevot au singulier, c'est Teva. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans la paracha de l'arche de Noé. On l'appelle Teva de Noah. Donc la Teva, l'arche, est un mot. Rentrer dans l'arche pour être sauvegardé d'un déluge, c'est tout simplement rentrer dans les mots. Car le mot égale arche, si je veux être préservé par un déluge quelconque, tel que le déluge de la fin des temps que nous sommes en train de vivre maintenant en direct, de plus en plus, vous allez le voir. Ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi depuis 20 ans, on vous l'a déjà dit, on vous a dit que ça allait arriver. Donc les choses vont aller en s'accélérant. Donc il faut rentrer vite dans l'art. L'art, c'est donc les mots. Les mots, c'est donc l'étude. Donc entrer dans l'étude de la Torah, c'est tout simplement vivre à un autre degré. Et seuls ceux qui vont rentrer dans cette étude vont être en réalité dans l'arche de Noé. Bien entendu, elle a d'autres formes, cette arche. Elle s'appelle aussi, dans le Zohar même, le Shabbat. Ceux qui vont observer le Shabbat seront, encore une fois, ceux qui vont être sauvés par le déluge extérieur. Le Zohar ne s'arrête pas à Shabbat. Il nous dit que l'arche s'appelle aussi la terre d'Israël. Ceux qui entreront en terre d'Israël, dans la période messianique, seront gardés, sauvegardés, sauvés du déluge environnant. C'est pour ça que, comme à l'époque de l'Arche de Noé, où on a pris en fait des extraits de toute l'humanité, des extraits de tous les animaux, des extraits de tout le végétal, des extraits de tout le minéral, et on a tout fermé dans une petite boîte qu'on a appelée l'Arche, eh bien aujourd'hui, ceux qui sont en terre d'Israël sont les extraits de tout ce qui va rester, qui va disparaître un jour du monde. C'est-à-dire que vous êtes le dernier survivant qu'on a pris, qu'on a choisi, qu'Akadosh Baruch Hu vous a choisi, et vous avez entendu le son qui vous a dit de revenir dans l'arche, tout comme la girafe avec sa femme, monsieur et madame girafe, qui sont venus d'eux-mêmes dans l'arche de Noé, parce qu'ils ont entendu un son intérieur qui leur a dit « il faut vite rentrer dans cette arche ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une induction de tout ce qui arrive maintenant sur la terre d'Israël, et nous allons être la dernière mémoire de toute l'humanité. Ceux qui vont être ici vont être les derniers de quelque chose qui a disparu. C'est-à-dire les derniers Français de la vie vont être les Juifs qui sont montés de France. Les derniers Espagnols du monde vont être les Espagnols qui sont venus à Ranana. C'est-à-dire quand vous vouliez entendre maintenant du français, il va falloir, dans quelques années, lorsque cette arche sera complète, on va être en fait comme une doubnique, des extraits, des sens de toute l'humanité. D'où est-ce que je fais ça? Vous le dites et vous ne savez pas ce que vous dites. Asher bachar banu, mi kol ha'amim. Que veut dire le mot mi kol ha'amim? Il a pris de toutes les nations des esprits. Et nous sommes donc la dernière mémoire de chaque degré. Et tout va se réunir dans cette arche qui s'appelle la terre d'Israël. Ce que je suis en train de vous dire, c'est maintenant. C'est en train de se passer. Vous avez été choisi. Vous devez remercier l'Éternel d'avoir été choisi et d'avoir entendu ce choix pour être ici. Les sages nous disent dans la Mishnah, Chachamim, Hizaharu Bedivrechem. Sages, vous les sages d'Israël, faites attention à ce que vous dites. Ça, c'est dans le premier degré. Je monte de degré. La Torah du Mashiach. Le Mashiach va venir, il va nous dire, c'est pas ce que je vous ai dit. Bien sûr qu'il va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis, mais ça, t'as pas besoin d'être un grand sadique. Même une personne de base doit faire attention à ce qu'elle dit. Le Mashiach va nous dire, Chachamim Hizaharu Bedivrechem. Si vous êtes sage, il y a une seule façon de le voir. Hizaharu. C'est ceux qui vont mettre du Zohar Bedivrechem dans leurs paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de voir la superficialité des choses, ils vont voir l'intérieur des choses. Et la Mishnah là-bas est claire. Shema. Parce que si vous ne le faites pas, dit la Mishnah, tachovu chovat galut. Vous allez vous retrouver en exil. C'est automatique. Autrement dit, je répète la phrase, si vous ne mettez pas de zohar, de splendeur, de profondeur dans votre étude, vous allez finir en exil. Ve'yavou atalmidim haba'im acharechem ve'istou min ha'mayim ha'marim, et vos élèves vont venir après vous, vous êtes les maîtres, ils vont boire de vos paroles, mais ce sont des eaux amères, ve'yamoutou, et ils vont mourir. Exactement. Ça veut dire que si les élèves, Chas v'Shalom, en étudiant la Torah, arrivent à mourir, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a des degrés de Torah qui correspondent à certaines générations. Pourquoi je vous dis donc que c'est aujourd'hui? Je vous cite un passage du Zohar dans le livre de Bereshit à la page 117. Premier volet. Bessit Léa. Le Sitata, dans le sixième millénaire, c'est-à-dire 5500, et plus, en l'an 5700, aujourd'hui on est en 5776, c'est-à-dire depuis 260 ans. Il patrou d'altot à chokma. Les portes de la sagesse vont s'ouvrir. Veillez karov le yemot amashiach. Ce sera en réalité la période très proche du messianisme d'Israël. Afilu tinokot, dit le Zohar, même les bébés, yavinu sodot à chokma apnimi. Ils vont être capables d'appréhender cette sagesse de la profondeur de la Torah.
Ça sera donné à tout le monde.
Beotam yamin, en ce temps-là, Yahfoch limud asod le nefek, l'étude du secret, et là encore une fois il nous manque de données, car le mot sod en hébreu ne veut pas dire seulement secret, ça vous connaissez tous cette tradition. Mais quelle est la véritable traduction du mot sod?
Les sodot, la base, non?
Non, pas les sod, sod. Ça c'est l'Ulpan. Sod, c'est l'ensemble. Autrement dit, je suis en train de parler de la Torah de l'ensemble et non pas la Torah du détail. Je reviens aux lettres que j'ai rappelées tout à l'heure. Quelle est la Torah de l'ensemble d'un texte? Essayez de réfléchir. Si je m'adresse aux lettres, je m'adresse à la différence. Chaque lettre est différente de l'autre. Où se trouve un dénominateur commun entre toutes les lettres? Prenez un test. Il y a Féméos. L'espace qui se trouve entre les lettres, se trouve non seulement entre les lettres, mais aussi sous les lettres, puisque les lettres sont posées sur cet espace. Donc, quelle est la Torah du commun, la Torah du sod, de l'ensemble? C'est la Torah du blanc. La Torah du blanc. Vous l'entendez, ça? Pas la Torah du texte. D'ailleurs, votre cerveau, quand il voit un texte, il lit le noir du texte ou le blanc? Non, votre cerveau ne lit pas le noir, il lit le blanc, et après il y a une traduction simultanée pour vous donner l'impression que vous lisez le noir. D'ailleurs, vous pensez que vous voyez à l'endroit. Votre cerveau voit à l'envers. Et il y a encore une traduction simultanée qui vous inverse le processus. La Torah messianique ne va plus s'adresser à la différence, elle va s'adresser au commun. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter le Rav parler, vous allez être capable d'entendre ses silences. Un élève moyen écoute le Rav parler. Un super élève apprend des silences de son maître. C'est autre chose. C'est un autre degré de Torah. Ça veut dire que je suis en train de vous parler, en fait, de l'espace qui est entre nous et non pas de nous-mêmes.
C'est sous-entendu, c'est ça.
C'est aussi le sous-entendu, mais c'est plus que ça. Si je m'adresse aujourd'hui à la Torah des lettres seulement, c'est-à-dire que je vais te juger par rapport à ton apparence. Alors que si je m'adresse à la Torah de l'espace, toi et moi, nous sommes posés sur le même espace. Donc ma Torah devient complètement un. Cette unité, on a du mal à la voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous parlez de cette unité, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Pourquoi je ferme les yeux? Parce que je suis incapable, les yeux ouverts, de voir cette unité. Car les yeux ouverts me montrent des détails, des différences. La Torah me dit, si tu veux connaître la Torah de l'ensemble, la Torah du blanc, la Torah de l'espace, la Torah du commun, il faut que tu fermes les yeux. Tu n'es pas encore capable de le voir. Quand tu fermes les yeux, tu peux savoir le commun entre nous et t'arrêter aux différences, avec les différences, ne plus t'arrêter aux différences. Aujourd'hui, dans cette étude de la Torah, vous avez donc ceux qui s'adressent encore aux différents et vous avez ceux qui sont déjà dans Chachamim, qui Zaharou Betivrechem. Faites que de la lumière dans vos paroles, vous n'allez plus juger les gens par leurs apparences et vous serez déjà à même prêt de recevoir le Mashiach. Donc le Mashiach ne va pas juger les apparences. Il va juger l'intériorité. Il va juger le sens de l'unité complète. Quand est-ce que ça commence? Le Zohar lui-même nous donne la date. En 5500. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans. Depuis 260 ans, on est en plein milieu de ce degré. Et il rajoute, ce sera le Nesek Biladi. Qu'est-ce que ça veut dire Nesek? L'arme. La seule arme qui pourra nous sauver du mensonge qui régnera dans le monde à la fin des temps. Vous comprenez? Pourquoi le mensonge est tellement facile à avaler? Aujourd'hui, vous voyez comment on fait avaler au monde entier n'importe quoi. Les lettres du mot mensonge en hébreu sont des lettres collées dans l'alphabet. Le signe, le couf et le reste. Ce sont trois lettres collées. On appelle ça seker. Autrement dit, quand tu veux voir quelque chose de mensonger, c'est très facile, on te donne quelque chose d'extrait d'une totalité. Donc tu ne vois pas le sod, tu ne vois pas l'ensemble, tu ne vois qu'une parcelle. Comme un bon journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un extrait de ce qui l'intéresse, il va gonfler cet extrait. C'est toujours le même d'ailleurs, un soldat israélien avec une mitraillette, avec un petit palestinien. Okay? Et on ne sait pas ce qui s'est passé, ni avant, ni après, ni pendant. C'est comme ça. Le mot aimer, qui est exactement l'antithèse, Eh bien, ce sont les trois lettres les plus éloignées dans l'alphabet. Le Aleph, c'est la première. Le Mem, c'est exactement celle du milieu. Et le Taf, c'est la dernière. Regardez la force de cette langue extraordinaire, parce qu'elle est divine. La vérité, c'est toujours l'ensemble. Le mensonge, c'est toujours un esprit grossi, sorti de son contexte. Eh bien, nous y sommes aujourd'hui, et il faut faire très attention à ne pas tomber, pas au niveau des informations. Ça ne m'intéresse pas trop. C'est sûr que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Mais au niveau de mon étude, de ma Torah, de mon peuple, si je n'arrive pas moi non plus à appréhender mon peuple, ma nation, ma terre, comme un ensemble, et si je rentre dans les détails qui nous différencient, eh bien ce n'est pas la Torah du Mashiach. Le Mashiach va venir et va te dire, tu es hors jeu, tu n'as rien compris. Parce que tu es encore dans la Torah des lettres. Alors que ma Torah, celle que je vais faire descendre dans le monde, donc la Torah divine, ce sera la Torah de l'ensemble et non pas la Torah des différences. Est-ce que le blanc existait avant les lettres ?
Avant.
Est-ce qu'il existe après les lettres ? Après. Vous prenez un livre, un Sefer Torah, il y a du blanc avant. Pourquoi on laisse du blanc ? Il y a presque un rouleau et demi de blanc. À la fin du livre, il y a encore du blanc. Entre les lettres, il y a du blanc. Au-dessus des lettres, il y a du blanc. En bas des lettres, il y a du blanc. Entre un livre et un livre, il y a quatre lignes blanches laissées exprès. Sinon, le livre n'est pas caché. Qu'est-ce que c'est que ces blancs ? Vous avez déjà posé la question ? Ce sont tout simplement des milliards de milliards d'informations qui n'ont pas été peintes en noir. Tout simplement. Or, comme nous sommes petits, et que Dieu ne veut pas nous laisser, en fait, dans un espace incompris, alors il nous a habillé certaines parties du blanc. C'est ce qui donne les lettres. Et donc il nous a fait venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que les lettres « Ata » veut dire « venir ». Donc Akadosh Baruch Hu nous offre des lettres, tout simplement en les habillant en noir. Donc chaque fois que vous voyez une lettre, c'est une forme de vêtement qui a été attrapé dans l'intimité du blanc. Je vais vous donner ce même exemple dans un autre domaine. Vous allez à un concert de musique. Un instant avant le concert, vous avez le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, qui va lever les mains. Il y a un silence. Est-ce que dans ce silence, le concert est déjà ? Oui. Tout le concert est déjà dans ce silence. Seulement pour l'instant, il est impalpable. On ne peut pas encore l'entendre, mais en réalité, il est déjà là-bas. À la fin du concert, il y a un silence. Ce silence, d'ailleurs, est encore plus fort, parce qu'il continue, quand tu rentres chez toi à la maison, tu ne peux même pas allumer la radio, parce que tu es tellement imprégné de la musique que tu viens d'entendre, et tu es avec ta femme pendant 20 km dans la voiture, avec un silence, parce que ça continue à travailler, alors qu'il y a ce silence complet. Et pendant le concert, il n'y a pas que les notes. À chaque fois qu'il y a un silence entre une note et une note, entre un musicien et un autre, tous ces moments de silence, c'est ce qui fait l'harmonie. Moralité, ce silence existe avant, il existe après, et il existe pendant et en dessous. C'est ça la force. Quand un maître parle, il commence par un silence, il finit par un silence, et il donne des silences entre les mots. D'ailleurs, c'est une clé. Plus l'homme est sage, plus les silences sont longs. Et plus on est jeune, plus on a honte de laisser des espaces blancs et on a toujours l'impression qu'il faut dire quelque chose, sinon elle va s'ennuyer. Surtout si on est en période de petit jeune couple. Faut vite que je comble les mots parce que qu'est-ce qu'elle va dire ? Je ne parle pas, je n'ai rien à dire. Et on a honte de ces silences. Alors que entre deux personnes qui s'aiment et qui se connaissent, le silence sont des conversations sans aucun mot, Extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous parle dans le silence. D'où est-ce que je le sais? C'est écrit chez nos prophètes. Akadosh Baruch Hu, Lobako Hashem. Lobaru Hashem. C'est pas dans le souffle, c'est pas dans le vent, c'est pas dans tout ce que vous voulez. Qui il colle de mama daka. La dmama, c'est le silence total qui en réalité est tellement riche ce silence qu'il a besoin de rien. Il contient en lui le tout. Voilà la Torah du Mashiach. Le Mashiach va parler dans ce silence. Il va parler en réalité dans ces espaces blancs qu'il va falloir connaître. Mais connaître l'espace blanc, c'est pas évident. Parce que nous sommes habitués à entendre des sons. Nous sommes toute la journée perturbés par des sons, par des images. On a peur du blanc. On a peur de cet espace blanc. On a peur de ce silence. On a besoin d'avoir du bruit. D'ailleurs, c'est un mot aujourd'hui. On ne dit pas taper des nerfs, on dit faites du bruit. C'est extraordinairement maladif. On est obligé de faire du bruit. Alors que le silence est tellement plus fort. Mais on ne sait plus, on a peur du silence. Il y a toujours une petite télé pour avoir un siphon, une radio allumée. On a peur de nous retrouver seuls face à nous-mêmes. On ne sait plus s'écouter. On a peur de nous rencontrer. C'est quand la dernière fois que vous avez marqué sur votre agenda « Rendez-vous avec moi-même » Vous n'avez que des rendez-vous avec des gens, toujours vers l'extérieur. Vous savez comment on dit à l'extérieur en hébreu ? La route. Et ça veut dire aussi « angoissé ». Pas la route. La route. Ça veut dire « angoissé ». C'est toujours « belle la route ». Pourquoi ? Parce que c'est toujours vers les autres. T'as oublié d'être. Tu n'es plus toi. Le Mashiach va venir dans un langage silencieux nous donner les véritables valeurs de la vie. Et il va falloir donc apprendre le blanc d'entre les lettres et non pas seulement les lettres. Je parle donc de la Torah, de l'ensemble. Maintenant, on va rentrer une couche. Si c'est la Torah de l'ensemble, bien c'est la Torah de qui ? De tout. Est-ce que cette Torah s'arrête aux hommes ? Non. Puisque c'est la Torah de l'ensemble de quoi ? De la vie, rappelez-vous. Moralité, si je sais parler le blanc, on va l'appeler comme ça, je peux parler à qui ? Aux hommes, aux animaux, aux végétaux et aux minéraux. Vous avez déjà vu une pierre qui réussit sa vie ? Qu'est-ce que c'est qu'une pierre qui réussit sa vie ? Voilà une pierre qui a été prise pour construire une maison en terre d'Israël. Vous avez tous des maisons dans Baruch Hashem. Ce sont des pierres qui vous bénissent à chaque instant en disant, dans le silence total, merci d'avoir choisi moi et ma copine et mon copain pour former ton mur sur cette terre d'Israël. Mais le top niveau des pierres, c'est ceux qui vont construire le troisième temple. Ça, ce sont les pierres qui sont arrivées au degré ultime de ce qu'une pierre peut arriver un jour. C'est-à-dire d'une construction totale qui peut révéler les valeurs de l'infini dans du minéral. Comment est-ce que Dieu, l'infini, béni soit-il, s'habille dans des cailloux. Ça, c'est la force. Tant qu'ils ne sont pas arrivés à ce degré, Akadosh Baruch Hu s'habille dans des degrés intermédiaires. C'est pourquoi, dans le désert, de quelle matière était fabriqué le tabernacle ? De bois et de peau. De végétaux et d'animaux. Il n'y avait pas encore la pierre. Pourquoi ? Parce que Dieu n'était pas encore descendu bien assis dans ce monde. Quand est-ce que Dieu est bien assis dans ce monde ? Lorsqu'il traverse toutes les couches de ce monde, c'est-à-dire qu'il est le Dieu de qui ? Du tout. omniprésent, omnipotent, pas seulement dans une étude d'un test à la yeshiva, mais dans tous les niveaux de ta vie, même quand tu es à l'extérieur de la yeshiva et tu as l'impression que tu es seul, que tu es à la maison. Si Dieu n'est pas descendu à ce niveau-là, c'est qu'en réalité, tu l'as éloigné d'une certaine parcelle de vie. Ça, c'est pas la Torah qui m'attire. Je répète avec des mots simples cette introduction. Le Mashiach va venir nous enseigner une Torah qui correspond à tous les degrés de ce monde. C'est-à-dire que quand vous allez étudier le Mashiach, ça ne sera pas une étude sur terre, ça sera tout simplement une vie, des retrouvailles avec votre vie. Et donc, cette vie sera sur quel domaine? Bien sûr, tous les domaines. Elle poussera tous les degrés de l'existence. Il n'y aura pas plus à Kadosh Baruch Hu dans l'école de vie que au canyon. Et à tel point qu'il n'y aura pas plus de Torah chez le maître que chez son élève. Et donc, l'une des prophéties messianiques, Veloil Medou Is et Achim. Il n'y aura plus de cours. Il n'y aura plus besoin de cours. Tout le monde sera dans cette connaissance du plus petit au plus grand. Pourquoi nous allons vers cela? Parce que nous venons de cela. Ne serait-ce que vous, quand vous étiez tout petit, quand vous étiez petit, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous n'étiez pas encore dans ce monde. On appelle ça dans le langage de nos sages le Olam Haba. Le ventre de la maman, c'est le Olam Haba. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne compte pas les 9 mois dans le ventre. On compte les jours du bébé à partir du moment où il sort. Autrement dit, dans le ventre, il est dans un autre monde, dans un monde supérieur, dans un monde idéal, mais il lui manque une seule chose, la concrétisation. Reprenez la forme, la position que vous aviez quand vous étiez dans le ventre de maman. Les pieds touchés, la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde de la pensée touchait le monde de l'action. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la Gemara, dans le traité de Nida, nous dit à la page 30, le bébé voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. C'est pas qu'il a une vision hypersonique, bio-ionique. C'est tout simplement parce qu'il voit de l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure. Sa tête voit ses pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre sa tête et ses pieds. Ça arrive dans la Torah lorsqu'on appelle un acteur, un des acteurs de la Torah, 2 fois le même nom. Akadosh Baruch Hu dit Abraham, Abraham, Abraham. Pourquoi il appelle 2 fois? Bien, c'est un des noms d'Abraham. Abraham s'appelait au début Avram, après il s'est appelé Abraham, et après il s'est appelé Abraham, Abraham. C'est pas que Dieu s'est trompé ou que le scribe a écrit 2 fois Abraham. C'est pour nous dire tout simplement que le Abraham des pieds, d'en bas, de ce monde, c'est le même Abraham de la tête du ciel, d'en haut. C'est-à-dire les idéaux sont exacts, sont fidèles à la réalisation des choses. Quand ta vie sera dans cet ensemble-là, tu seras dans la Torah messianique. La Torah messianique donc ne fait pas de différence entre le haut et le bas, le droit et le gauche, car il y a en réalité la Torah de l'unité. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est le Ramchal Akadosh, ça s'appelle Sod Hayichud. Quand on arrivera à comprendre cette unité entre tous les degrés de ce monde, ça c'est la Torah messianique. C'est un exemple du corps humain. Quand chaque cellule de mon corps, celle de l'oreille comme celle du doigtier, va comprendre qu'elle travaille pour un seul organisme qui s'appelle Yoel, elle est dans une Torah messianique. Mais chaque fois que 2 d'entre mes doigts se bagarrent, parce qu'ils ne sont pas d'accord, c'est d'ailleurs ce que nous faisons, parce que vous êtes en réalité des doigts. d'un être infiniment grand. Et chaque fois qu'il y a une dispute entre deux êtres ici en bas, entre deux voisins, entre deux conducteurs dans une voiture, c'est comme si dans un corps humain, il y avait le doigt qui enfonçait l'œil. Ça vous fait rire. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Vous n'avez pas compris, on n'a pas compris qu'on est en train de faire partie d'un ensemble immense et que nous jouons tous pour cet ensemble-là. Et chacun de nous avec sa différence. Jamais mon pouce n'a dit à mon petit doigt « Je ne t'aime pas parce que tu es différent de moi. » Non. Nous jouons pour le même programme et on a chacun sa spécificité. Et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Même si on est en contradiction, on est toujours là en face de l'autre. Mais c'est ce qui nous permet de lever le verre, cette contradiction-là. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, même dans nos idées, je ne peux pas saisir, pas seulement un verre, mais une idée. C'est pour ça qu'en étudiant la Torah, il faut qu'en face de moi, il y ait quelqu'un qui ait une autre tête que moi. Parce que si j'étudie avec des gens qui ont la même tête que moi, on tourne autour de nous-mêmes. J'ai besoin d'avoir une contradiction. Et quand il y a contradiction ou bien contre-action, ça veut dire contraction, donc il y a naissance. Je répète?
Oui.
Quand il y a contradiction, eh bien c'est comme s'il y avait une contre-action. Parce que moi j'agis dans ce sens et toi tu agis dans l'autre sens. Or les contractions, c'est ce qui pousse le bébé à naître, à sortir. C'est la femme enceinte. C'est ça la contraction. Vous n'avez même pas entendu le mot. Parce que pour vous, né en France, contraction est un mot. Moi non, moi je suis né en Israël, donc chaque fois que j'entends un mot en français, je le décompose. Donc je me dis, mais c'est quoi une contraction? C'est une contre-action. Ah, ça devient intéressant. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de contre-action, il n'y a pas de possibilité de naissance. On ne peut pas extraire le bébé. Ça, c'est le secret de notre vie. Et ça, c'est le secret messianique. Je commence le cours. Nous sommes deux semaines avant Mashiach. Pourquoi? Parce que Mashiach sont les initiales de Madliki, Shmona, Yemet, Hanouka. C'est juste les initiales. Hein? Mashiach, Madliki, on a lu Shmona, Sin, Yemet, Hanouka. Ça veut dire le mot Mashiach et la fête de Hanouka. On a lu les 8 bougies. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que à Hanouka, on nous a empêché trois choses. Trois choses. Et là, je rentre dans un second degré. Tant que je ne sais pas quelle est la contraction, je ne peux pas savoir quelle est la nature de l'action. J'explique. Sans savoir ce que c'est que la galoute, je ne sais pas ce que c'est la déoula. Si je ne sais pas ce que c'est le noir, je ne pourrai jamais savoir ce que c'est la lumière. Ça marche comme ça dans notre monde. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde par couple, contradictoire. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Ce fut le noir, ce fut le jour, un jour. C'est bizarre ça. Pourquoi j'ai besoin de deux contradictions à chaque fois? D'ailleurs, même la femme s'appelle Ezer Kenegdo. La femme est contre. C'est bizarre ça. Moi j'ai besoin qu'elle soit pour. Mais si elle est pour, vous devenez tous les deux pourris. Ça marche plus. Il faut qu'elle te contredise. Pas seulement pour te contredire, pour trouver l'osmose entre vous. Pas si tout ce qu'il va dire, je vais dire l'inverse. Non, c'est sa nature d'être inverse. Et tu dois construire avec cette nature inversée. Je reviens. Si je rentre à Hanouka, si dans deux semaines et demie de Ezrat Hashem, vous allumez vos veilleuses de Hanouka sans savoir quelle est la contre-action, alors c'est sympathique que vous allez allumer des veilleuses. Même à Lyon, on allume et elle a fait des lumières dans les fenêtres. C'est pas ça. Alors quelle est la contraction, la contradiction? Comment s'appelle la contradiction de Hanouka? La Grèce, Yavan. C'est pour ça que nous sommes en guerre contre les Grecs pendant cette période. Mais vous allez me dire, mais les Grecs ont disparu du monde, c'est pas les Grecs d'aujourd'hui. Mais oui, mais parce que, encore une fois, vous regardez la Torah au plus bas niveau historique. Mais je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de l'essence du grec. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, ce grec? Eh bien, tout simplement, les sages nous disent qu'il est l'antithèse de la lumière, donc il est le noir. Comment est-ce qu'il est le noir? Il a apporté pas mal de choses dans ce monde. Ça, c'est une étude à part entière. Les sages nous disent trois choses. Les Grecs ont voulu annuler du peuple d'Israël 3 degrés. Quoi? Le sabbat, la Brit Mila, Mila et Rosh Chodesh. C'est-à-dire, quand on vous dit une chose pareille, vous dites, mais pour ça on a fait tout ce cinéma? Ils n'ont plus voulu qu'on fasse le sabbat. Ils n'ont plus voulu qu'on fasse la Brit Mila à nos enfants et ils nous ont empêché de décréter le début du mois. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Premier degré, radez pas crête, comme d'habitude, vous étudiez, bon, le sabbat c'est important, j'ai vu le sabbat, j'ai été méchalé le sabbat, Le Mashiach vient, vous êtes dit, attends, on monte de niveau. C'est la Torah messianique, c'est la Torah de maintenant. Quel est le point commun? J'ai dit que c'était la Torah du commun. Donc j'ai besoin de savoir le point commun entre ces 3 degrés. Quel est le point commun entre ces 3 degrés? Eh bien, ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Le sabbat n'est pas de ce monde. Le sabbat n'est pas décrété par l'homme. C'est une force qui nous tombe dessus chaque semaine depuis la création du monde. Que je fasse sabbat, que je ne fasse pas sabbat, que j'allume mes veilleuses, que j'en allume pas mes veilleuses, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que c'est une force qui vient de l'ordre du... C'est quel chiffre? La Brit Mila, c'est quel jour? Le 8e jour, pourquoi? Parce que nous disent les Chachamim, l'homme quand il naît, apparemment il est entier, pourquoi tu as besoin de couper quelque chose? Parce que tu es obligé d'enlever l'écorce qui te cache la vérité de ce monde. Vous savez que le prépuce du bébé, ça s'appelle Orla. Ce sont les mêmes lettres que Raal, le poison. Pendant 8 jours, tout le mal du bébé circule dans son corps et se concentre dans cette partie que le Moël, le 8e jour, va couper. Juste un petit détail, chez Abraham Avinu, pour que cette concentration se fasse, il a fallu 100 ans. Nous, c'est 8 jours. Au moment où le Moël vient, il coupe, il enlève en fait au bébé la couverture qui lui permet d'être en accès avec l'au-delà. Donc il est dans son chiffre 8. C'est pour ça que la Mila est au 8e jour. D'ailleurs, l'enfant, sans avoir dévoilé ses prépuces, s'appelle Shem, comme un démon. Et la découverte du Yud, ça lui rajoute un Yud au Shem, ça se dit Shaddai. Le nom que vous avez à la Médusa. La Médusa, c'est la Brit Mila, c'est le passage. Comme chez l'homme. 3e degré, Rodé, qui nous permet de sanctifier le temps? Pour décréter qu'aujourd'hui c'est le début du mois, comment je fais? C'est parce que j'ai reçu en fait la capacité à avoir les clés du temps. Donc Israël a reçu les clés du temps. Israël a reçu les clés de l'être et Israël a reçu les clés de l'espace. Ça passe, mais pas seulement un temps. Sabbat n'est pas un temps. La terre d'Israël s'appelle Sabbat. Les Grecs ont voulu nous éloigner de ces 3 degrés, c'est-à-dire de nous éloigner de la Torah messianique, qui se représente aujourd'hui par la lumière. Quand vous allumez vos veilleuses de Hanouka, combien de lumières vous allumez? 8. Mais sans vous comprenez pourquoi? Parce qu'en réalité, nous voulons faire descendre le 8 dans notre monde de sept. Parce que dans ce monde de sept, s'il n'y a pas de lui, tu es aseptisé. Ne rigole pas. D'ailleurs, quand on voulait que le grand prêtre entre dans le Saint des Saints et qu'il en ressorte, la Mishnah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Mashbi'im oto. Qu'est-ce que ça veut dire, Mashbi'im oto? On le fait jurer, mais c'est beaucoup plus profond. Torah dit Mashiach. Mashbi'im oto, koshrim oto la sheva. On le fait renier au sept, sinon il rentre dans le huit et il ne veut plus ressortir. Parce que celui qui atteint le huit ne veut plus revenir dans ce monde. Moralité, pour être dans ce monde, il faut être très fort. Il faut être Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire être Mashiach? Il faut être Torah de Mashiach. Il faut étudier la Torah du Mashiach. Il faut étudier la splendeur, le Zohar. Pourquoi? Parce que ce monde est difficile à vivre. Mais il est bien d'être vécu dans ce monde à condition que tu fasses descendre les valeurs de l'infini dans le monde du fini. Ça, c'est la Torah du tout. C'est-à-dire que tu fasses descendre les valeurs du lit dans un monde de sept. Si tu ne fais pas cela, eh bien ton monde ici-bas sera vide. Un monde vide se dit en hébreu « chaloul ». Comme un mort, halal. Alors que vous appelez ça profané. Chiloul Shabbat. Profaner le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le Shabbat? Vous savez ce que c'est chiloul Shabbat? C'est vider le Shabbat de sa vie. Quand quelqu'un est mort cette année, sa malakita, on l'appelle un halal. Chalal de Shalom. Ça veut dire ça ou pas? Au début d'ailleurs, c'est chol. Après ça devient cholé, c'est-à-dire au début c'est le profane, après il devient malade, et après ça devient halal, c'est mort. C'est les mêmes lettres. Et pour le remplir à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? L'inverse de chiloul, kiddush. C'est pour ça qu'on fait un kaddish pour les morts. Pour remplir ce qui a été voûté.
Quand tu as demandé qu'est-ce qu'ils ont les trois choses en commun,
là,
je n'ai pas dit ce que je dis, c'est du Dieu. Je ne sais pas tellement que l'identité.
Mais oui, c'est ça. Mais quelle est l'identité d'Israël? Tu as tout compris. L'identité d'Israël ne vient pas d'ici, elle vient de cette Torah messianique, de cette lumière de l'au-delà. Kol Israël Eslam Chelek Leolam Abba, pas Olam Abbé. Et si on ne sait pas ce degré-là, et on vit qu'on aura des pâquerettes dans ce monde, c'est-à-dire que toute notre structure mondiale de chaque jour, c'est s'occuper des affaires courantes. Mais c'est pas une vie. Mais si dans ces affaires courantes, je fais descendre les valeurs de l'infini, bien tout prend une autre dimension.
Ça devient plus supportable.
Et ça, c'est la force. Il y a très noble. À cela nous disent les Chachamim, quand le Mashiach va apparaître, il va ouvrir une yeshiva. Ah oui, yeshiva, c'est le Melech HaMashiach, on l'appelle, elle a un nom, Metivta Derakia. Metivta Derakia, c'est-à-dire les valeurs du ciel, mais elle sera sur terre. Seulement à l'entrée, il y a un panneau. Ne sont autorisés à rentrer dans les yeshiva du Mashiach pour étudier avec lui que trois sortes de personnes. Ceux qui ont trois degrés. Il faut savoir faire vivre un mort. Il faut savoir transformer la nuit en jour. Et on va te donner un aliment qui est complètement amer. Il va falloir que tu fasses un truc pour le rendre doux. Okay. Vous allez dire, non, personne ne rentre dans ces yeshiva. Mais moi, je vous dis que non, vous n'avez pas compris le sens. L'accès à la yeshiva du Mashiach, c'est tout simplement ceux qui sont obstinés. Ceux qui dans la mort voient la vie. Ceux qui dans le noir voient le jour. Et ceux qui dans l'amertume voient la douceur peuvent rentrer dans cette yeshiva. Voilà la Torah du Mashiach. C'est pas une Torah de celui qui va être sage au niveau d'un test, c'est celui qui voudra vivre, qui aimera la vie, qui reviendra vers la vie. Si tu es capable de voir dans chaque élément un élément de vie, tu peux rentrer dans cette yeshiva du Mashiach. Tu peux faire partie du club. Tu auras ta carte. Mais si tu es pessimiste, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu vois que le noir. Tu ne sais pas voir le noir en lumière, c'est l'inverse. Toute lumière, tu la transformes en noir. Toute douceur, tu la transformes en amertume. Et toute vie, tu en fais une mort, Chassid Shalom. Mais qu'est-ce que tu laisses pour les autres? Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Aujourd'hui, je me retrouve à donner des cours que pour remonter le moral aux gens. C'est incroyable. C'est terrible. Ça veut dire que les gens sont dans une dépression totale. Mais c'est pas grave. C'est très important de le faire.
Il y a un besoin, non ?
Et le livre de Daniel nous dit « Hamaskilim yaviru » Ceux qui vont comprendre à la fin des temps cette Torah, là, la Torah messianique, qui d'ailleurs porte un nom dans la Kabbalah, je ne veux pas rentrer dans les termes plus profonds, mais pour ceux qui ont déjà étudié, ça s'appelle Torah de Atika Setima'a. Un degré qui s'appelle Atik Yomim. C'est-à-dire un degré énorme. C'est une Torah qui touche l'essence d'Israël. Avant même ce que nous sommes ici. C'est-à-dire qu'au lieu de te parler à toi, je vais parler à ta Neshama. Je peux parler à l'animal qui est en toi, parce que je sais parler aux animaux. Je peux parler au végétal qui est en toi, c'est-à-dire à ton état végétatif. Je peux parler au minéral, à la pierre qui est en toi, c'est-à-dire à l'angoissé qui est toujours dans son lit. C'est ça la Torah du Mashiach. Le Mashiach va pouvoir nous parler de l'intérieur pour nous réveiller, pour nous transcender. Quand le Baal Shem Tov donnait un cours à ses élèves, Alav Shalom, Shkuto Tagen Alenu, les élèves nous disaient comme s'ils étaient. On avait l'impression qu'on était au Mont Sinaï, on entendait le chauffard, on entendait le feu, on voyait le feu, tout était là. Ça, c'est un sioux de Torah. Si tu ne vibres pas, si tu ne brûles pas, si tu ne sors pas du cours transformé, c'est pas la peine de revenir. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas de l'information que vous allez entendre. C'est une transformation de l'être. Cette Torah messianique, elle a des mains. Elle vous rentre à l'intérieur et elle vous fait un ménage intérieur. Ça, c'est la Torah du Mashiach. Eh bien, cette Torah, c'est la Torah que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. C'est tout simplement la prophétie qui doit revenir par notre nature. Nous sommes les prophètes des nations. Nous avons oublié notre identité. Nous sommes là pour apporter la lumière au monde. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir. Tout ce que nous disons au monde, pour l'instant, ils ont du mal à recevoir. Mais le mal qu'ils vont recevoir leur fera passer le mal de recevoir. C'est ça le problème, malheureusement. C'est qu'ils commencent à recevoir des gifles qui sont prêtes depuis 2000 ans pour tout le mal que ces nations ont fait à Israël. Pas parce que c'est Israël, tout simplement parce qu'en empêchant Israël d'être celui qu'il doit être, ils ont empêché Dieu de descendre sur terre. Et aujourd'hui, Dieu est en train de descendre sur terre. Quand je dis de descendre, c'est-à-dire de se dévoiler. Et nous devons être tous prêts à être des réceptacles de cette lumière. Et pour être prêt à être des réceptacles, il faut savoir de quoi on parle. Car lorsque le Mashiach va venir et qu'il va vous dire des expressions et des tests, et que vous allez le regarder comme ça, hein, qu'est-ce qu'il raconte ? Il faut se préparer. C'est une étude. C'est un changement de vie. C'est un switch total dans l'esprit. Et donc il faut comprendre tous ces secrets-là. Donc la Torah de l'ensemble, la Torah qui fait le lien à chaque instant. Vous allez lire ce Shabbat, nous allons lire Bezrat Hashem, le songe de Jacob, avec son échelle. C'est quoi cette échelle ? Eh bien, c'est le cours que je viens de vous donner maintenant. C'est une échelle qui fait relier le ciel à la terre. Et sans arrêt, il y a des anges qui montent et qui descendent. Pourquoi dans ce sens d'ailleurs ? Pourquoi il n'y a pas marqué dans le texte des anges qui descendent et qui montent ? Parce que si la Torah était un livre de philo, ça aurait été comme ça. Des anges qui descendent et qui montent. Parce que pour les philosophes, il faut monter. La Torah, c'est dit non. Le but, c'est c'est que les anges montent, mais qu'ils redescendent sur terre. J'ai besoin de voir, moi, ces valeurs ici-bas. Arrête de me raconter dans les cieux. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux que la terre devienne ciel. Quand la terre deviendra ciel, quand tu vivras le ciel dans ta terre, alors tu seras dans l'époque messianique. Ça, c'est l'échelle de Yaakov. Et en réalité, qui est cette échelle? C'est Yaakov lui-même. Il a marqué dans le texte « Umal Ache Elohim Olim Veyordim » Bon, il n'y a pas marqué « Basoulam ». C'est pas que les anges montent et descendent sur l'échelle, ça c'est bien pour vers une toile à la Sagal. Mais la Torah nous dit pas que les anges montaient et descendaient sur l'échelle. La Torah nous dit qu'ils descendaient sur Yaakov, qui était lui-même une échelle de valeur capable de relier le ciel et la terre. Comprenez? Ça, c'est la Torah messianique. C'est une Torah qui touchera tous les recoins de ce monde, qui n'oubliera aucune partie de ce monde, qui touchera les plus bas degrés de ce monde, jusqu'au minéral. Tant que le minéral ne deviendra pas porteur de l'infini, eh bien ce monde sera encore dans sa dépression. Baruch HaShem, nous sommes en train de réaliser cette chose-là. En revenant sur la terre d'Israël, maintenant vous comprenez pourquoi ça s'appelle Aliyah, alors que normalement ça devrait s'appeler Yerida. Parce que la véritable Aliyah, c'est quand tu fais descendre le ciel ici. C'est quand vous revenez en Eretz Israël, vous avez pris en fait la Torah du ciel pour la faire descendre et en faire une Torah de terre. Et Eretz, ça vient de la racine Ras. C'est ce qui va nous faire courir. Et qu'est-ce qui nous fait courir? Le Ratson, notre volonté. Donc il faut transformer complètement cette Torah qui était céleste, la béatitude, en Torah terrestre, en Torah réelle. Quand vous voyez des peintures du Moyen-Âge, vous voyez toujours des peintures à la chrétienne, des personnages qui ont la bouche ouverte et qui regardent le ciel. Qu'en en Eretz Israël, c'est autre chose. Emet, mais Eretz Tismach. La vérité va pousser de la terre. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Tzemach. Tzemach, c'est une plante. Le Mashiach est une plante. Au début, ça pourrit dans la terre. T'as l'impression que tout est foutu. Et de ce degré-là, il va casser la matière pour transcender la matière et la faire monter vers le ciel. Il va être aspiré par le ciel tout en restant et les racines sur terre. Ça, c'est la plante. Ça, c'est nous. C'est pour ça qu'on s'appelle implanté sur notre terre. Vous n'êtes pas venu pour changer de territoire. Un jour, vous étiez à Paris, maintenant vous êtes ici. Non! Vous êtes des plantes messianiques qu'Akadosh Baruch Hu a implantées dans ce monde. Alors au début, ce sont des plantes un petit peu, pas très, mais les enfants et les petits-enfants, extraordinaires. La semaine dernière, j'étais faire la Siv'a de la maman de Shalom Bar, qui a perdu sa maman. Et je lui ai dit, tu peux me montrer une photo de ta maman? Il m'a dit, non, mais j'ai sa carte d'identité. Je lui ai dit, elle est où? Il me montre une photo, il m'a dit, la voilà. Il avait une photo comme ça, avec 100 enfants et 6 enfants. Voilà la carte d'identité. Il avait marqué, moi, la petite Anna, Sarah, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, elle, rescapée de la Shoah, je te donne cette réponse avec ces centaines d'enfants et de petits-enfants. Une centaine hein, d'enfants et de petits-enfants. À toi, le nazi qui est déjà parti, qui est déjà mort, qui voulait me tuer, regardez ce que c'est. Voilà cette force-là. Donc, Am Israël aujourd'hui, et sans arrêt, je vous le dis, qu'est-ce que c'est? Comment ça sera reconnaissable? Je termine avec ça. À Maskilim, dit le prophète Daniel, Yaziru ke Zohar Harakia, ou Maskikei Harabim Kafochavim. Comment est-ce qu'on vous reconnaîtra les personnes de la fin des temps? C'est qui vous avez intérêt à étudier? Ceux qui vont être Yaziru. Ils vont savoir mettre du Zohar dans leurs paroles et Masdikei Harabim. Ils vont toujours donner le bon sens, la raison à leur peuple. Jamais défendre leur propre peuple. Jamais être contre sa propre nation. Ceux qui vont toujours trouver des circonstances atteignantes, de la beauté. Ceux qui verront de la lumière dans le noir, de la douceur dans l'amertume, et de la lumière et de la vie, là où tout le monde nous a déjà condamnés à mort. Moi, j'étais ici à la guerre des six jours. J'avais 8 ans. Je suis né en Israël. On nous a dit de préparer 30 à 40 000 cercueils. Et les gens ont commencé à travailler à faire des cercueils. Baruch HaShem, les cercueils ont servi à alimenter des fours à pizza. Ça n'a servi à rien du tout. Et Baruch HaShem, nous sommes ici plus forts que jamais. Et chaque jour qui passera, chaque fois que vous allez faire en sorte qu'un juif revienne encore sur cette terre, vous faites descendre et vous faites approcher le mécanisme du frère. Toda Rabba. Mashiach ben Yosef, c'est tout le système économique et politique. Mashiach ben David, c'est tout le secret divin qui va descendre, s'habiller dans cette structure politique. Donc les deux sont un. C'est la même force. Yosef et Yehuda, Bidouk, dans la Torah. Toda Rabba, Torah Togot. Dès que tu veux la manger, il faut éviter. Amen. Oui. Il faut me téléphoner, c'est un petit peu plus simple, j'ai écrit les clés du jardin, ça s'appelle, les clés du jardin, mais en hébreu, si vous lisez l'hébreu, j'ai beaucoup de mieux. Non ?
c'est écrit en hébreu. Dans l'édition hébreu, il y a un traducteur, mais on n'a pas encore commencé. En hébreu ? Ouais. En hébreu, je vais vous dire. Au prochain, je suis en train de faire beaucoup en hébreu. J'ai déjà 10 livres. Ils sont déjà sortis. Ben ouais, mais. Avant, ils venaient, ils disaient plus, on m'a remis. Tout d'arbre.
Vous avez
dit aussi un,
c'est l'autre,
c'est beau.
C'est
beau.
Et c'est beau, aussi
un, c'est. Aussi, venir, et c'est beau, venir une boîte, comme là. Voilà. Exactement. C'est pareil. C'est un contenant dans lequel tu peux mettre un truc dans une structure. On ne peut pas rentrer dans tous les détails parce que la Teva, elle avait trois niveaux. Tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, pour être dans une bonne Teva équilibrée, il faut trois niveaux. Un niveau qui est humain, c'est-à-dire qui touche la Nechama. Un niveau qui touche l'animal de l'homme, le rejet. Et un niveau qui touche en fait le degré le plus bas. Et ça, si tu sais faire ça en une seule note, faire toucher les trois degrés de l'être, c'est extraordinaire. Toi, au piano, tu peux exploser.
Comment tu fais ça? Où tu vas chercher tout ça?
Mais c'est toi le tadou. Je l'adore.
Non, pas maintenant.
السلام عليكم تودا ربا ميرسي ميرسي بوكو
D'ailleurs, je vais te dire, c'est la panique, c'était.
Ouais.
Ah, si j'ai pas, j'ai corrigé tout ça, tout bas.
Ah ouais.
Ils avaient rien marqué dessus, elle était vide. Oui, bien sûr, je vous ramène. Mais je passe par là-bas, de toute façon.
C'est une Torah qui est en train de descendre en ce moment, mais extraordinaire. Remarquez le meilleur à la Yeshiva, on est en train de jubiler. C'est extraordinaire. Extraordinaire la joie. Pardon ?
Oui, j'ai pas la fin.
Vous pouvez pas vous imaginer la joie qu'on.
J'ai peut-être posé une question primaire. Mais à quoi vous ressentez cette descente de la Torah?
Simplement par
l'étude.
Ben oui, parce qu'on a
par le dévoilement des textes.
On a des voilà, on a des dévoilements qui transcendent complètement tout ce qu'on a fait compris jusqu'à maintenant. Ça le met à un autre niveau. Et là, pour l'instant, j'ai juste donné des débuts, j'ai même pas touché.
Touché. J'en doute.
J'ai rien touché là. Rien.
Donc, il y a un dévoilement de l'étude qui se laisse des
boucles. Ah, mais complètement, fermé. Complètement. Tout était fermé, là, tout s'ouvre.
Ouais, mais pas tout le monde voit ça.
Non.
Et c'est parce que comme il y a plusieurs pensées différentes.
Exactement. C'est une manière d'étudier. En fait, c'est une manière de prendre tout et de voir toujours tout dans tout. Jamais des détails seulement. Toujours partir du tout et dans le tout trouver les détails. Et pas l'inverse.
C'est un peu. La façon de une peinture, hein.
Exactement.
Quand on interprète,
en fait... Il faut voir l'ensemble,
et puis on connaît la peinture, et puis on voit les détails.
Exactement. Mais si vous commencez à l'envers, vous vous perdez.
Ah ben c'est évident. Et puis on ne peut pas juger la peinture, parce qu'on s'arrête à un détail,
comme
et
ça. Empêche
de voir le reste de la peinture.
Est-ce que l'être, c'est un ensemble de membres? Ça fait à ces conditions, si tu deviens Frankenstein. Ou est-ce que c'est une âme qui a après établi dans un mouvement global? C'est toute une évolution.
Enfin, moi, ce qui m'intéresse, il m'a dit que tous ceux qui sont montés, ben, quels qu'ils sont, ils sont quand même partis de la
terre. Ben oui, mais vous êtes dans l'arche. Vous êtes dans l'arche de Noir.
On vit une époque extraordinaire.
Ah oui, là, c'est, de toute façon, ça va aller en s'accélérant.
C'est très beau,
franchement. Et attention. Faut faire avant. De rire l'autre là, le surgain là. Aujourd'hui tu m'as ébloui.
Alors,
il vous tue, moi c'est pareil parce qu'il dit toi tu fais sportage. Tu t'appelles fais sportage. Je dis non, c'est fais sportage. Non, non, c'est fais
sportage. Tu vas pas commencer à m'embrouiller.
J'avais un ami, il m'a dit qu'il était doux, il était, nous avait déjà de Hongrie, je sais pas.
Oh là 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 là.
J'avais un ami, il s'appelait fais sportage, tu vas pas le changer maintenant, c'est fais sportage. Je dis non, moi c'est fais sportage. Il dit c'est le même nom. Je dis oui, mais ça dépend si on a mis les points, si on les a enlevés.
C'est là le restaurant. Bon, alors je vous laisse là.
On est en plein milieu de la rue. Regardez, vous avez l'arrêt du bus.
Vous arrêtez au rouge là. Rouge et blanc.
Ouais, d'accord. Il va descendre là.
Non, vous pouvez descendre, il n'y a personne derrière. Allez, merci. Merci pour vous.
Embrassez bien la bête et bien l'enfant. Tiens,
d'accord, rentrez bien.
Je ne sais plus quoi vous dire.
Je continue. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci.
Allez, bye, 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 bye.
Là, il faut que je prenne encore les autres. Tu l'as appelé? C'est celle des enfants alors, avec celle qui a sorti. Demain, ils viennent me brancher là. Il est vraiment sérieux dans le système. Parce qu'ils vont réussir tout. Tous les petits, là, de chaque tous nos enfants, tout ça, c'est bon. C'est bon. Quoi ça, c'est le déco?
Ouais,
je vais le mettre là. Voilà, comme ça, c'est bon. Parce que si vous remettez, c'est pas.
Voilà,
voilà. Ça va, ma fille? Comment tu vas?
Bien?
Bien? Voilà. Merci, ma soeur. Toda Rabba. Toda à la colle. Merci, bye bye.
Thank you. התוכנית שלנו, בגרסה מלאה יותר רם, משה וילנסקי, רם, ותזמורת שעה שלושות, חפים אותם, עד הסיום.